Journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pour en finir avec un tabou qui fait des morts chaque année parmi les nourrissons, le syndrome du bébé secoué au cœur d'une grande campagne nationale ce matin. Des morts, oui, et des séquelles graves pour ceux qui survivent. Reportage à suivre. La France s'approche-t-elle du pic épidémique? Le nombre de contaminations se stabilise, tout comme les hospitalisations en réa. Mais à l'école, on redoute une nouvelle semaine tendue dans l'attente des remplaçants promis par le gouvernement. Dans ce journal aussi, Boris Johnson pourra-t-il survivre au Partygate? Toujours plus d'inégalités dans le monde, selon Oxfam. Et les collections non genrées, nouveau pari des jeunes créateurs de mode.
Au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui l'actrice Sandrine Kiberlin qui réalise son premier film, Une jeune fille qui va bien.
France Inter.
Quand une crise de larmes, Alexis, finit en drame.
Un nourrisson qui pleure, un père qui craque et d'un coup, le silence total. La vidéo choque et est diffusée à partir de ce matin sur les réseaux sociaux. Le gouvernement lance aujourd'hui sa campagne contre le syndrome du bébé secoué. On en diagnostique près de 500 chaque année en France. Un tabou aux conséquences terribles. Un cas sur 10 est mortel. Et parmi les bébés qui survivent, les trois quarts conservent des séquelles neurologiques. Logique grave, c'est le reportage d'Hélène Chevalier.
Allez, vas-y.
Encouragé par Sophie, sa maman, Axel manipule très maladroitement de grosses pièces de Lego. Le jeune garçon de 6 ans est lourdement handicapé.
Il vit avec à peu près 20% de son cerveau. Alors il marche pas tout seul, il dit que quelques mots, pas de phrases. Il a à peu près l'âge mental d'un enfant d'un an. Et aussi au niveau sensoriel, il est malvoyant.
À 4 mois et demi, Axel a été secoué par son assistante maternelle. Un acte de quelques secondes qui a eu des conséquences irréversibles sur son cerveau, explique le docteur Caroline Ré-Salmon, pédiatre et médecin légiste.
C'est le cerveau qui tape à l'intérieur de la boîte crânienne et c'est des veines qui s'arrachent et qui vont faire ce qu'on appelle un hématome sous-dural, c'est-à-dire qu'il va y avoir du sang qui va tapisser le cerveau. Avec dans l'imaginaire des gens que les petits, ça se répare, le cerveau est plastique, machin, mais pas du tout, hein, c'est une catastrophe.
Pour cette spécialiste, c'est entre 4 et 8 mois que les nourrissons sont le plus souvent victimes de ces secouements extrêmes, période où ils pleurent plus fréquemment, des violences qui se produisent quand la personne se retrouve seule, dépassée face à ses cris. Sophie, la maman d'Axel, regrette, elle, de ne pas avoir sensibilisé son assistante maternelle.
Parce que finalement, peut-être que si on en avait parlé, que je lui aurais simplement dit, ben voilà, si vous en pouvez plus, vous m'appelez, je suis dispo, je viens n'importe quand, ben peut-être que mon fils serait pas comme ça aujourd'hui.
Condamné à 5 ans de prison dont 3 fermes, l'assistante maternelle n'a jamais avoué les faits.
Le lancement de cette campagne contre le syndrome du bébé secoué avec donc une vidéo sur les réseaux sociaux mais aussi des affiches et des kits de prévention chez les médecins.
7h33, dernier obstacle pour le pass vaccinal.
Le gouvernement espère une entrée en vigueur d'ici à la fin de la semaine, mais il faudra attendre la décision du Conseil constitutionnel. Le PS et les Insoumis comptent le saisir après l'adoption définitive du projet de loi hier soir par l'Assemblée. Les sages ont 8 jours pour se prononcer. Quant à l'épidémie en elle-même, il y a ce matin quelques signes encourageants, comme en réanimation où le nombre de malades n'augmente plus et baisse même depuis vendredi. 278 000 contaminations Covid recensées hier en 24 heures, ça se stabilise. Le pic approche, mais à l'école, on redoute malgré tout une nouvelle semaine chaotique après un record de classes fermées. Le gouvernement a promis masques chirurgicaux et FFP2 pour les enseignants et plus de remplaçants. Mais en attendant, les directeurs devront encore gérer l'urgence, Elia Bergel.
Les annonces gouvernementales n'ont pas d'effet baguette magique sur l'école élémentaire du Hazet à Cergy. 2 enseignants malades du Covid manquent à l'appel ce matin, explique le directeur Olivier Flipeau, délégué UNSA du Val d'Oise.
Comme il n'y a pas de remplaçant, du coup je suis obligé de fermer ces 2 classes et demander aux familles de garder leur enfant. 56 élèves sont concernés.
Jean-Michel Blanquer a pourtant promis 8000 remplaçants pour éviter les fermetures de classes.
Je vois pas comment ils peuvent faire.
Car il faut les trouver d'abord, ces remplaçants, alerte Emmanuel Villain, enseignant à l'école élémentaire du Hazet de Cergy.
Avant le Covid et tout ça, il y avait déjà des tas de problèmes de remplaçants, une crise de recrutement. Donc j'arrive pas à croire qu'en une semaine, on puisse recruter des gens et les mettre dans les écoles.
Compliqué aussi de livrer les 5 millions de masques FFP2 annoncés par le gouvernement. Jérémy Rousset, le porte-parole du syndicat SNUPP-FSU dans la Loire et directeur d'école maternelle à Saint-Étienne, les attend toujours.
Aucun masque n'est arrivé jusqu'à l'école pour l'instant.
toutes les promesses qui ont été faites, pour l'instant, restent à l'état de promesses. Elles étaient déjà insuffisantes. Là, pour le coup, elles ne sont même pas concrétisées.
Aucune date pour l'arrivée des masques n'a été communiquée à ce directeur d'école. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, assure qu'ils seront fournis dans les prochains jours. Leur livraison doit s'échelonner jusqu'à la fin du mois.
Et plusieurs syndicats d'enseignants appellent à une nouvelle journée de grève ce jeudi. À l'étranger, les élèves sont de retour en classe aujourd'hui au Québec, après de longues semaines d'enseignement à distance. Le gouvernement de cette province canadienne dit entrevoir le bout du tunnel et lève aussi le couvre-feu. Au Royaume-Uni, l'heure est également à l'optimisme. Le gouvernement espère la levée des restrictions d'ici à la fin du mois. Pas sûr que cela suffise à calmer la colère contre Boris Johnson, le Premier ministre empêtré dans le scandale des fêtes organisées par son cabinet en pleine pandémie. Bojo lutte pour sa survie politique, mais il n'a pas dit son dernier mot, Laura Calmus.
Il n'est pas prêt à partir et veut se battre jusqu'au bout. Boris Johnson, empêtré dans des affaires de fêtes clandestines, compte bien riposter. Au sein même de son parti, de nombreux députés conservateurs lui ont déjà tourné le dos et se sont joints à l'opposition pour réclamer sa démission. Ils estiment qu'il a déjà perdu son autorité et ne peut plus diriger le pays. D'autres attendent les résultats d'une enquête interne qui déterminera exactement ce qu'il s'est passé et les erreurs commises par Downing Street. Alors pour faire patienter le public, l'un des membres du gouvernement, Olivier Dowden, a tenté de défendre le Premier ministre hier sur la BBC.
Le Premier ministre est profondément désolé de ce qu'il s'est passé, mais plus important encore, il est déterminé à faire en sorte que cela ne se reproduise pas en s'attaquant à la culture sous-jacente à Downing Street.
Une culture sous-jacente comme des apéros arrosés tous les vendredis soirs ou un réfrigérateur rempli de bouteilles de vin selon le Daily Mirror. Boris Johnson devrait prochainement interdire l'alcool dans les bureaux de Downing Street selon le Sunday Times. Il compte aussi faire porter le chapeau à certains membres de son personnel, annonçant la démission de plusieurs de ses employés. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Pas moins de 2 rendez-vous judiciaires pour Éric Zemmour cette semaine, et cela à moins de 3 mois de la présidentielle. Jeudi, il doit être jugé en appel pour avoir déclaré que Pétain avait sauvé les Juifs français. Mais avant cela, dès cet après-midi, le tribunal rendra sa décision sur ses propos concernant les mineurs étrangers isolés. À l'automne 2020, le polémiste d'extrême droite les avait qualifiés de voleurs, d'assassins et de violeurs. Le parquet a requis 10 000 euros d'amende, Mathilde Vinceneux.
Une peine de 10 000 euros d'amende avec le risque d'aller 100 jours en prison s'il ne paie pas. Dans ses réquisitions, la procureure affirme que les limites de la liberté d'expression ont été franchies, que lorsqu'Éric Zemmour parle des mineurs, il vise la population immigrée et fait des généralisations. Un procédé classique du racisme, selon l'accusation. Il n'y a pas une once de racisme chez Éric Zemmour, répond l'avocat du désormais candidat à l'élection présidentielle. Maître Olivier Pardo assure que son client ne faisait que défendre une position politique. Il plaide la relaxe et balaie l'idée d'une provocation à la haine raciale. Les mineurs ne sont ni une race, ni une nation, ni une ethnie, argumente-t-il. Des débats en l'absence d'Éric Zemmour. Son avocat lui avait conseillé de ne pas venir pour éviter que le tribunal ne se transforme en plateau de chaîne d'infos, alors qu'une trentaine d'associations et de conseils départementaux responsables des mineurs isolés se sont constitués partie civile dans cette affaire.
9 millions de foyers fiscaux sont concernés. C'est aujourd'hui qu'est versée l'avance sur les crédits et réductions d'impôts. Vous en bénéficiez si l'an dernier vous avez employé par exemple un salarié à domicile ou encore fait des dons à une association. Pas de balai d'hélicoptère dans le ciel des grisons suisses. Le forum économique de Davos se fait exclusivement en ligne cette semaine. Mais des traditions demeurent, comme chaque année. C'est le moment choisi par Oxfam pour dévoiler son baromètre des inégalités. Et 2022 ne déroge pas à la règle. Malgré la pandémie, les plus riches concentrent toujours plus de richesses, selon l'ONG. Delphine Simon.
Le monde compte un milliardaire de plus toutes les 26 heures selon les données compilées par Oxfam. Depuis le début de la pandémie, leur fortune a plus augmenté qu'en 10 ans et la France n'échappe pas à la règle. Les 5 premières fortunes tricolores ont doublé leur richesse. Elles possèdent à elles seules autant que les 40% les plus pauvres, rappelle Quentin Parinello, porte-parole d'Oxfam France.
La fortune des milliardaires français a augmenté de 86%. Depuis le début de la crise. C'est pas parce qu'ils ont fait des choix stratégiques particulièrement brillants, c'est parce qu'il y a eu une intervention publique et ils ont su en tirer parti.
Oxfam pointe les coupables, les États et les banques centrales qui ont injecté massivement et sans condition pour relancer l'économie, de quoi gonfler mécaniquement la capitalisation des entreprises. À l'inverse, les oubliés de ces plans d'urgence, ce sont les plus précaires, encore plus pauvres qu'avant.
Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement français est en train de faire payer la crise à ces personnes les plus précaires, je pense notamment à la réforme de l'assurance chômage. Il y a un choix politique à faire, est-ce qu'on fait payer la facture de la crise aux plus précaires ou est-ce qu'on la fait payer aux milliardaires ?
Alors il faut un peu nuancer cette étude qui calcule la richesse des particuliers en incluant leurs dettes, mais les inégalités se creusent et menacent la reprise, prévient la Banque mondiale, alors que les effets des plans de secours sont en train de se dissiper.
Et en Chine, Covid et restrictions sévères n'empêchent pas la flambée du PIB. Pékin annonce ce matin 8% de croissance en 2021, un record en une décennie. Pas de quoi booster la confiance des Chinois en l'avenir. Le taux de natalité vient, lui, de chuter à son niveau le plus bas en Chine depuis 50 ans.
Il est 7h40. Faut-il encore organiser des défilés séparés, Alexis, femme d'un côté, homme de l'autre?
Les maisons de couture s'interrogent depuis plusieurs années déjà. Pour l'instant, les traditions pèsent lourd, hein, comme cette semaine de la mode masculine qui débute demain à Paris. Mais la nouvelle génération veut, elle, en finir avec les collections genrées. À l'Institut français de la mode, désormais, les étudiants n'habillent plus un homme ou une femme, mais un humain, tout simplement. Anna Bonne-Mazoukarère a rencontré ses créateurs en herbe.
Bleue ou blanche, avec des rayures ou des pois, dans nos souvenirs, elle est souvent informe. Hugo, élève de l'Institut français de la mode, l'appelle la chemise à papa. C'est la pièce phare de sa collection.
Cette chemise, au final, elle est drapée et ça la rend extrêmement féminine. Ça en fait un vêtement que beaucoup de femmes voudraient porter, qui pour autant est un vêtement 100% masculin. On est dans une optique de tous les vêtements sont intéressants et je vais porter un vêtement par plaisir et par liberté de se dire j'aime, je porte.
Et il n'est pas le premier. En 2016, Gucci et sa collection unisexe bouscule les genres et entraîne avec elle d'autres marques.
On reviendra pas naturellement vers quelque chose d'hyper genré. C'est pas possible pour moi.
Leïla Nehri, la directrice de la formation, est bien d'accord.
C'est le changement social qui amène le changement dans la production des maisons et des industries. Donc on ne peut pas imaginer de former des designers qui seraient en retard sur une question ou une autre.
Ces jeunes designers et leurs nouveaux codes qui, selon Sarah Bannon, chercheuse en histoire de la mode, sont très attendus par les maisons de couture.
Ils sont très contents d'avoir des nouveaux créateurs qui vont arriver avec leurs nouvelles idées, avec leur dynamisme, avec leur velléité innovative.
En attendant, la collection automne-hiver 2022-2023 reste genrée, avec des défilés séparés.
Reportage Anna Bonne-Mazoukarère, avant le début demain donc de cette Fashion Week homme, pour l'instant, à Paris.
Alexis Morel, merci. L'édito politique est à suivre.